Bonjour à tous, reprends aujourd'hui Messie Rabbi Abakama, Daf Pechet aux deux points. La Chovel Bevet Klani chez l'Acherim Chayav, et Rabbi Yuda nous avait dit que celui qui blessait un Bevet Klani ne payait pas de Bochet. Il n'y a pas l'obligation de payer Bochet pour un esclave. Maïtama de Rabbi Yuda, Marka, qui natsu anashim yerdav, ish verchiv. Il est marqué au sujet de Bochet, deux hommes qui se disputent, il y a la femme qui va les séparer, c'est là-bas qu'il y a marqué Bochet. On parle d'un frère, d'un homme et son frère, c'est-à-dire un deux juifs. Mishesh lo Achva. Donc ceux chez qui il existe cette fraternité, il n'est pas notre frère. Non, mais il est considéré comme notre frère puisqu'il a des obligations comme un homme juif, il a des mitzvot lui aussi. C'est vrai que lui c'est comme une femme, mais il a donc une obligation de mitzvot. Et là, donc d'après Rabbi Yuda, zomeme eved lo yaharogu. Puisque tu exclus l'esclave du terme frère, il devrait aussi être exclu de mita, c'est-à-dire s'il y a eu des témoins contre un esclave. Il s'avère qu'ils ont menti. Est-ce qu'on tuerait les esclaves, les témoins, l'irtive, va si t'aimes l'okacher zamam, la sorte l'arrive. Il est marqué qu'ils seront punis parce qu'ils ont voulu faire quelque chose à son frère. Donc, si tu as témoigné contre un évêque ivri, tu ne devrais pas être puni. Et on le sait, comme le dit Rashi, que oui, ils doivent être punis. Amarava marachachet, amarka ubiarta aramikirbecha mikol makom. Comme il est marqué, ubiarta aramikirbecha, c'est-à-dire, tu devras annuler tout ce mal. Eh bien, ça vient inclure ce cas-là aussi. Je l'ai lu. Et là, mais attends, je l'ai commandé après Abanan, Eved et Kachar le Malchut. Puisque Eved est considéré comme ton frère, parce qu'un esclave pourrait être roi. Le répond la Gemara, ou le Tamir. Ah oui, tu penses que c'est une question, ça? Tikshelach Ger le Divra Kol, on pourrait poser la question d'après tout le monde. Même celui qui dit qu'un esclave, d'après Avuda qui dit qu'un esclave n'est pas son frère. Ou d'après Rabbanan, au sujet d'un converti, on devrait le cachériser pour être roi, puisque il est oui sous le titre de frère. Et on sait très bien que même un converti, eh bien, il ne peut pas être roi. On dit Agmara, on parle d'un converti qui est pas vraiment converti en vérité, qui est né de parents convertis. Et là, Amakam Mikerev Achicha, Kerev Achicha Mimufra en Shebe Achicha. Au sujet du roi, il est marqué Kerev Achicha. Donc tu vas choisir parmi tes frères. Donc tu as un choix à faire, tu prendras donc le meilleur, celui donc qui a une ascendance parfaite. Et là, Matal et Rabban, il y avait Kachar Laedout. Un témoin pour être Kachar Laedout, il dit Vene et Sheker Anabe Achiv. Si tu considères qu'un esclave est sous le titre de Ach, dont il est marqué qu'un témoin a témoigné contre son frère. Donc un esclave pourrait témoigner. On sait très bien qu'un esclave ne peut pas témoigner. Agmar nous donne une première réponse à Maroula, Edout le Matsitamart. Non, Edout, c'est pas possible. Pourquoi? On fait un calva chomer d'une femme. Si déjà, Maïcha, chez Yoel Aboubekal, une femme peut se marier avec n'importe quel juif, elle est psoula, la doute, elle ne peut pas témoigner. Et chez Yoel Aboubekal, un esclave, qui ne peut se marier avec aucun juif. On a dit, je sais pas, sous la doute, n'est-ce pas, qu'il ne pourrait pas témoigner. Il y a pas mal ton calva chomer, mais, Maïcha, chez Ken, elle a ruiné Mila. Isha, elle a un autre défaut, c'est qu'il n'y a pas de bruit Mila. Alors que Thomas, Bevet, c'est où il est Mila? Un esclave, c'est oui la Mila. Quand il devient esclave, on lui fait la bruit Mila, c'est sa conversion. Et donc peut-être que, sachant qu'il est mieux, puisqu'il peut faire la brite mila, peut-être il serait caché sur la doute. Donc ton calva chomer, ton ballot. On dit katan yuchiar. Je peux te ramener une preuve d'un enfant, chez Yeshlobe Mila. On lui fait la brite mila, et pourtant il n'est pas sous la doute. Donc le fait d'avoir ce bonus de mila n'est pas une particularité qui te rend caché sur la doute. Allez, katan, Yeshlobe Mitzvot, Oui, mais katan, c'est différent. Tu sais pourquoi est-ce que katan, bien qu'il a la mila, il n'est pas sous la doute, parce qu'il n'a pas l'obligation de faire les mitzvot, alors que l'esclave, oui, il a l'obligation. Oui, mais tu vois bien que la femme, elle a l'obligation de faire mitzvot et psula laïdout, et donc on va faire un l'oreïsé kérisé. C'est-à-dire, c'est vrai que quand je veux déduire éved de la femme, je ne peux pas. C'est vrai que quand je veux déduire éved de l'enfant, je ne peux pas. Mais, le point commun qu'il y a entre la femme et l'enfant, c'est qu'ils n'ont pas l'obligation de toutes les mitzvot, et ils n'ont pas le droit de témoigner. Ils sont pas saouls. Afin y avait Taïvet, chez l'homme, chalamisot, t'es pas saoul à doute. L'esclave aussi, il a ce même statut de ne pas faire toutes les mitzvot. Et j'arriverai à la conclusion qu'il est pas saoul de témoigner. Malat, ça l'a chevé, chez Ben, chez Kanenoïch. Mais il y a un point commun, qui différencie entre la femme et l'enfant d'un côté, l'esclave de l'autre, puisque les deux, la femme et l'enfant, ne sont pas des hommes. Alors que l'esclave est un homme, Thomas Bevet, tu riche. Et donc, je ne peux pas déduire, même de cette manière, c'est-à-dire de prendre deux sources et d'en faire une seule, et de faire l'oreïsé kérisé, à tzadash avechebaen, même si l'esclave n'est pas 100% ressemblant à la femme ou 100% ressemblant à l'enfant, quoi qu'il en soit, j'arrive vers une déduction. Non. puisqu'ils ont un point en commun qui les distingue de l'esclave. Eux ne sont pas hommes alors que lui est homme. Et là, nous dit la Gemara, l'esclave, on va le déduire de Gazlam, qui est pas sous l'aïdout. C'est un homme qui est chav de mitzvot, qui fait la mila, il est pas sous l'aïdout. Oui, nous dit la Gemara, mais les Gazlam, chez quel massav garoulo. Le Gazlam, pourquoi est-ce qu'il est pas sous? C'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il a fait qui le rend pas sous l'aïdout, massav garoulo. Alors que Thomas Bevet, chez elle, massav garoulo, ça n'est pas ses actes, mais plutôt ce qu'il a, c'est ce qu'il est. Et bien, nous dit la Gemara, t'étais Gazlam, Michal Menar. Pour arriver à une conclusion, je prendrai d'un côté le Gazlam, le voleur, d'un autre côté la femme ou l'enfant, et je ferai la différence. Il n'est pas tout à fait comme le Gazlan, mais il n'est pas tout à fait comme l'enfant, mais le Tzadachavé Shebael, et j'arrive à la conclusion qu'un Evel n'est pas sous la goutte. Tout ça, c'était pour répondre à la question, d'après Rabbanan, si l'esclave est défini comme son frère, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sous la goutte? Deuxième réponse. Mar Bere de Ravina, Amarka, lo yumtu avot albanim. Il est marqué dans le pasuk, lo yumtu avot albanim. Lo yumtu alpi avot she'en la'im chesbanim. On ne peut pas avoir le témoignage de mise à mort, alpi avot par des parents, chez elaim chayis banim, dont les enfants ne sont pas leurs, on va pas les définir comme descendance. Donc, on considère que les enfants d'un esclave ne sont pas définis comme ses enfants. Et donc, ils sont exclus de ce pasouk. D'agmar al-Ojim, nis al-kanatar kedam rinam. Lo yumtu avot al-banim be'edut banim. Si tu voudrais dire que ce pasouk vient m'apprendre, comme on dit autre part, dans ma sechet sanedrim, le passage qu'on apprend qu'une personne qui est de ta famille ne peut pas témoigner pour toi. Le yomtu avot albanim, les parents ne peuvent pas mourir sur le témoignage de leurs enfants. Donc on apprend que la famille ne peut pas témoigner. L'irtav rachmana. Donc si c'était que pour ça, l'irtav rachmana, le yomtu avot albnehem, on aurait dû dire que les parents ne peuvent pas mourir par leurs enfants. Bnehem, il n'y a pas marqué bnehem, il y a marqué banim. Nisal kalatar kedam amrina. Donc si tu penses que comme on avait dit dans ma sechet sanedrin, lo yumtu avot al banim be'edut banim, on aurait pu écrire l'irtav rachmana lo yumtu avot al bnehem, puisqu'on a écrit ma'i banim, pourquoi on a écrit banim, shmamina de lo yumtu avot al pishen amiches chayis banim. Donc puisque ce pasouk a été enseigné de cette manière, c'est pour nous apprendre aussi que un esclave ne peut pas témoigner. Mon jagma et la me'ata banim lo yumtu avot, la suite du pasouk. Il y a marqué banim lo yumtu avot, achiname lo yumtu al pibanim shenem chayis avot. Est-ce que la suite du pasouk viendrait m'enseigner la même chose, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas une ascendance, eh bien, ne peuvent pas témoigner. Et donc, et la guerre achinamed est pas sous la édoute, et donc un converti serait pas sous la édoute parce que ses parents ne sont plus définis comme les siens après sa conversion. Donc, est-ce qu'il serait, d'après ta lecture, exclu de ce pasouk, puisque ta lecture, c'est de dire que quand on parle des parents qui n'ont pas d'ascendance enfant, on parle d'esclaves. Eh bien, on va dans la suite du pasouk, on parlerait d'enfants qui n'ont pas leurs parents qui sont définis comme leur ascendance. Et donc, on devrait exclure un converti. Agmanoji, Amri, Achi, Ashta, pas du tout. Guerre. Nehide, Lochaïs, Lemala. Lemata, Esh, Lochaïs. Un converti, il n'a pas d'ascendance, c'est vrai, mais il a une descendance. Le Afouke, Eved, alors qu'un esclave, Lochaïs, soit Lemala, le Lemata. Il n'a de lien ni avec ses parents, ni avec ses enfants. Et donc, le Pasouk, forcément, vient exclure esclave et non pas guerre. Mais c'est le canatar, guerre pas sous les doutes. Si même tu penses que le guerre était pas sous les doutes. L'irtav rachmana lo yumtu avot al bnehem, l'irde amrinam, lo yumtu be'edut banim. On aurait pu écrire la première partie du pasouk lo yumtu avot al bnehem, c'est-à-dire leurs enfants pour t'enseigner que il y a un interdit de témoigner contre un proche ou pour un proche. Mais après, on aurait écrit la suite du pasouk l'irtav rachmana lo banim lo yumtu al avot. On aurait écrit la suite du pasouk de Shabbat minetarte. On aurait pu apprendre de là deux choses. Chada, lo yumtu banim be'edut avot, premièrement. Donc, encore une fois, de dire que les parents ne peuvent pas témoigner pour leurs enfants. Veidar, lo yumtu al pibanim shenem rei savot. On aurait donc appris que on ne peut pas témoigner, celui qui n'a pas de parents. Donc, un converti ne peut pas témoigner. Donc, on aurait appris la deuxième partie du pasouk d'exclure la possibilité pour un converti de témoigner. Ve'even, afkalab kalva chomer. Et on aurait fait un calvaire romain pour Evel. Miguer, ma guerre de l'Emma Laudel, le Chaïs, le Matej, le Chaïs, c'est déjà un converti qui n'a pas d'ascendance, mais qui a une descendance. Yesh, le Chaïs, il est quand même pas sous la Edout. Eved, qui n'a ni ascendance ni descendance, le Chaïs, l'Olemata. Il n'a donc pas d'ascendance ni de descendance, ni en haut, ascendance, ni en bas, descendance, et l'Odin, qui est pas sous la Edout. J'aurais pu faire ce calvaire romain. Donc, j'aurais pu écrire le pasouk d'une autre manière, en rajoutant Bnehem sur la première partie du pasouk et en précisant sans rien préciser dans la seconde partie, j'aurais appris le psoul de Kirva, de Karov, et j'aurais appris que le gars ne peut pas témoigner, et j'aurais déduit Eved. Maintenant que la Gemara, elle a mis des katavach, voilà, puisque la Torah écrit, lo yumtu avot el banim, sur la première du pasouk, elle n'a pas marqué Bnehem, elle a marqué banim. Demashma, Donc, on te dit qu'on ne peut pas témoigner par celui qui n'a pas d'ascendance, par celui qui n'a pas de descendance.
J'en déduis que le Eved est donc pas sous la Edoute. Mais c'est seulement le Eved. Avalgaer qui va venir chez le Chaïs et Mata Kachar la Edoute.
Mais le converti qui a une descendance, c'est Kachar la Edoute.
Dans la suite du pasouk, on aurait dû marquer à la votéhem pour nous enseigner que le psoul à apprendre, c'est seulement le inyan de Karov, celui qui ne peut pas témoigner contre sa famille ou pour sa famille.
La malie des katavachmana banim le yemtu alavot. Pourquoi est-ce que c'est écrit de cette manière, sans préciser avotehem leur père?
Demashma lo yemtu al pibanim shenaim chayisavot.
Parce que ça m'induit en erreur, en vérité. Ça me fait comprendre, comme j'aurais compris dans la première partie du pasouk.
Aïdé des katavachmana lo yemtu alavot al banim.
Katavna me banim le yemtu alavot.
Puisque la première partie du pasouk a été écrite sans écrire avotehem,
alors dans la suite du pasouk, on n'a pas marqué avotehem.
En deux mots. C'est long, et c'est étonnant combien de mots la Gemara utilise pour cela, mais en deux mots.
L'idée, c'est de dire que si j'avais voulu exclure le guerre, j'aurais exclu le guerre et j'aurais fait un calvaire pour l'esclave. Si j'exclus l'esclave, que le guerre, non, il n'est pas exclu. Et donc, le pasouk n'exclut que le guerre.
Alors, la première partie, on parle de l'œil ou avot albanim.
Donc, on parle, comme on a dit, ceux qui n'ont pas de descendance.
Ceux qui n'ont pas de descendance, c'est les esclaves.
C'est pour cela que, comme c'est marqué de cette manière, on peut apprendre deux choses. L'interdit de témoigner pour un proche et le fait que un esclave est pas soumis.
Puisque je t'ai enseigné qu'un esclave est pas soumis, ça veut dire qu'un guerre est cachère.
Ah, pourquoi est-ce que la suite du pasouk s'est marquée comme le début du pasouk, sans préciser avotehem, pour nous dire seulement que l'on ne peut pas témoigner au sein de la famille, pourquoi c'est marqué avot de manière générale?
C'est simplement par miroir sur le début du pasouk, et c'est tout.
Chérachoté le katan katama, on avait vu que celui qui blessait, chérachoté le katan, il allait payer, alors que eux ne payaient pas.
Agman nous raconte, il met des rabchons de baraba, mais à Grunia, donc une femme qui avait un enfant.
Avant de s'y battre les rababas, elle était mariée avec Rabbi Abba.
Alors au début, je pensais que c'était son père à lui. Mais non, c'est pas son père à lui.
Donc, on dirait que son premier mari s'appelait Abba et son second mari aussi s'appelait Rabbi Abba.
Quand fait-il vous le lire, c'est les rabchons de baraba. Elle a tout écrit pour son fils.
Bra, bâtard de Shriva quand elle est décédée.
Mazal rabchons de baraba. Le fils, il est parti chez Rabbi Mia Baraba.
Encore une fois, Abba.
Ok, mais benirse. Le rav lui a dit, c'est à toi. Tous les biens de ta mère t'appartiennent.
Mazal Rabbi Abba. Le mari est parti à moi les messes camés de Ravoshaya.
Il est parti se plaindre chez Ravoshaya.
Zal Ravoshaya, moi camé de Ravuda, il est parti voir Ravuda.
Amar les achis Amar Shmuel.
Voilà ce que je vous avais dit. Et chercher Macha ben Exébilug.
Alors, mais t'as une femme qui a vendu une Exébilug.
Eh bien, même si ça les a vendus, enfin, quand elle les a vendus du vivant de son mari et qu'elle est morte,
Abba al Motzi miyada lekuchot.
Le propriétaire peut, le mari, pardon, peut les récupérer.
Il est défini comme étant le premier acheteur de ces biens.
Exébilug, c'est des biens qui appartiennent à madame. Et il reste sous sa propriété. Sauf que le mari a un droit d'utilisation.
Et bien ici, on est en train de te dire, pour l'instant, on comprend pas tout à fait pourquoi,
qu'à partir du moment où, d'après Rav Yehuda, et d'après Shmuel, à partir du moment,
Rav Yehuda était l'élève de Shmuel,
dans tous les cas, à partir du moment où cette femme aurait vendu des biens, le mari les récupère après le décès de sa femme. Et donc, en d'autres termes, toi, fils, tu n'as pas le droit. Quand elle te les a donnés, c'est comme si elle les avait donnés à quelqu'un d'autre. Et bien le mari de ta mère, a le droit de les récupérer.
À moi, qu'a m'aider Rabbi Mia Baraba.
Donc, on a ramené cet alakha à Rabbi Mia Baraba qui lui avait été pensé que le fils était l'héritier.
Amalou, anamatutsa, nana.
Vous me racontez des belles choses. Moi, je connais les Mishnayot.
La côté de Khassav Levlo, Acham.
Alors, regardez. Jusqu'en bas de la page presque, ça va être un sujet à côté. Et après, on revient sur le sujet.
À côté de Khassav Levlo, Acham Oto.
Donc, un père qui a décidé de faire un testament et qui dit, voilà, tous mes biens t'appartiennent après mon décès.
En vérité, cette donation, elle est faite de cette manière.
Ils sont à toi, mais aujourd'hui, j'ai, moi, le père, le droit de les utiliser.
Eh bien, aucun des deux ne peut le vendre.
Le père ne peut pas vendre parce que le fonds de commerce, le kerem, il appartient au fils. Le père, le fils ne peut pas le vendre parce que les perrottes, l'utilisation, appartient au père. Et donc, les deux, en vérité, on a un blocage sur la propriété, aucun des deux ne peut le vendre. Par contre,
donc si le père les a vendus, la vente est effective jusqu'à son décès.
Qu'est-ce qu'il a vendu? Ce qu'il avait, c'est-à-dire un droit d'utilisation.
Le fils qui hérite aujourd'hui ne pourra pas dire, hey, ça fait 4 ans que tu utilises ces bâtiments, paye une location. J'ai payé à ton père, et il était dans son droit.
Si le fils a vendu, eh bien, l'acheteur ne pourra en profiter qu'après le décès du père.
Hachiamoutav.
J'en déduis, qui maït av, quand le père décède, mia itlel lekoach, le lokeach, l'acheteur, a le droit de récupérer. Ve afalgav demet aben mechayav, bien que le fils est décédé du vent de son père. Delo atu l'idée aben, qu'ils ne sont pas, bien qu'ils ne soient pas encore sous la tutelle du père, qui est Rabishman Melakish, damar, l'oshna metaben mechayav, delo atu liade deben, l'oshna metav, vechayaben de atu liade deben, kana lokeach. Ashlakish nous a dit, ça ne change rien. J'explique à l'oral. Le fils, en vérité, il a un titre de propriété sur la chose elle-même. Mais il y a un blocage par rapport au droit d'utilisation du père. Donc le fils ne peut pas vendre. Mais s'il a vendu, qu'il est mort, et que après c'est son père qui est mort, bien que l'oatul et adedeben, c'est-à-dire bien que le fils n'a jamais hérité de cette chose-là, la vente que le fils avait fait avant son décès est effective. Parce qu'on considère que le droit d'utilisation du père, kinyan perot, lave que kinyan agouf. C'est-à-dire que cette propriété n'empêche pas la vente qui a été faite. Il n'est pas propriétaire pour dire, mais attends, quand mon fils il t'a vendu, il était propriétaire de rien du tout, puisque moi j'avais mon kinyan perot, mon droit d'utilisation, donc son droit à lui ne valait rien, donc cette vente ne vaut rien du tout, pas du tout. Et kinyan perot l'a fait kinyan agouf. C'est un droit d'utilisation. Ça n'empêche pas que le fils a un droit de propriété sur la chose. Pour l'instant, il ne peut pas le synthétiser, il ne peut pas les mamèches sauter, il ne peut pas l'utiliser, mais il a fait cette vente, et donc cette vente est effective. Donc Resh Lakish est celui qui pense que quand le fils a vendu du vivant de son père et qu'il est mort avant que son père décède, la vente est effective. Ça, c'est l'avis de Resh Lakish, et maintenant, on va bifurquer vers ça. Deitmar, Machar Aben Bechaye Ha'av, le fils a vendu du vivant de son père, Omet Aben Bechaye Ha'av, et il est décédé avant son père, Abuchanan Amar Lokana, Lokiach, Resh Lakish Amar Kana, Lokiach. Est-ce que l'acheteur a fait la transaction est bonne pour lui ou pas d'après Abuchanan? Non, d'après Resh Lakish, oui. Abuchanan Amar Lokana Lokeach, il te dit non, pas du tout. L'acheteur ne peut pas valider. Pourquoi? Adchei Amutav, parce que j'ai sauté Nin Lokana Lokeach. Amar Lechai, t'explique Rabbi Yochanan, qui katane matetin machar ben Lokana Lokeach Adchei Amutav. Quand il est marqué dans la Mishnah que l'acheteur n'est pas propriétaire jusqu'au décès de son père, Vechimaita Av, et quand le père meurt, itl la Lokeach. Et que donc on en déduit qu'après le décès du père, l'acheteur valide la transaction. De l'homme est aben mechayav. C'est seulement dans le cas où le fils n'était pas mort du vent de son père. De atu l'idée aben. Et donc quand le père décède, le fils devient propriétaire. Le fils ayant déjà vendu, l'acheteur devient propriétaire. Aval met aben mechayav. Mais si Béhemet le fils est mort du vivant de son père, de lo atu l'idée aben. À ce moment-là, le fils n'a pas encore utiliser son, c'est-à-dire il n'est pas encore venu sa propriété. Kimaitav, namé l'etlelokeach. Même quand le père décède, l'acheteur n'aura rien du tout. Alma kassava, kinyan perot et kinyan agouf, namé. Parce que Rabbi Yochanan pense que kinyan perot, c'est défini comme un kinyan agouf, c'est-à-dire quand le droit d'utilisation du père, c'est comme s'il avait la chose. Vechizavim, l'avdi des avim. Donc quand le fils a vendu quelque chose qui n'était pas à lui, donc la vente n'est pas effective. Ça, c'est l'avis de Resh Lakish. En deux mots, le père a fait donation de tous ses biens à son fils. Son fils a décidé de les vendre. Il a pris le cash tout de suite. Il voulait pas attendre après 120 ans. Et il est mort. L'acheteur vient récupérer. On lui dit, désolé, le fils, il t'a vendu quelque chose qui n'était pas à lui. Mais comment ça? Il allait les récupérer. Ah, s'il les récupère et qu'il te les a vendus, c'est très bien, tu les récupères du fils. Sauf qu'au moment où il a fait la vente, il n'était pas propriétaire, donc il t'a vendu du vent. Mais je me suis jamais un canal au cœur, pas du tout. L'acheteur est oui propriétaire, qui est katané matétine, parce que quand c'est marqué dans le pichak, machar ben al okar tchamutahav, c'est marqué dans la Mishnah que Machar Aben, le fils a vendu, la vente n'est effective qu'après le décès du père, qui maït av mia itle, la lokeach, quand le père décède, la transaction est, oui, validée, loshna, lomet bechaye haav de atulé adedeben, loshna, met aben bechayav de atulé adedeben. Ça ne change pas, loshna. Si le fils n'est pas mort du vent de son père, et donc le fils les a récupérés, et ça ne change pas. Quand le fils est, oui, mort et que le fils n'a pas récupéré, kan lokeach, l'acheteur, ah oui, acheter Alma Kassava, qui est une perrotte de l'Afrique, qui n'y a la gouffre d'Amé. Il pense donc que l'acquisition des perrottes n'est pas comme le qui n'y a la gouffre. En d'autres termes, le fils a reçu un droit de propriété, un titre de propriété, sans avoir le droit d'utilisation, ce qui est chez le père. Ce droit d'utilisation n'est pas suffisamment fort pour empêcher le fils de faire une vente. Quand le fils fait une vente, elle est validée. Même s'il meurt avant qu'il ait hérité de ses biens, avant que son père décède, mais puisque le quinien de son père est assez faible, il n'empêche pas au fils d'avoir un titre de vrai propriétaire, sa vente est validée, même s'il meurt avant le décès de son père. Ve'anan ashta, continue la gemara, maintenant on revient vers l'autre sujet. Donc, on a une marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Est-ce que kinyan perot et kinyan la bouffe ou pas? Ve'anan ashta ben Rabbi Yirmiya baraba ben Rabbi Yehuda, ki Rabbi Shimon ben Lakish sur la loup. Que ce soit
moi, Rabbi Yirmiya ou Rabbi Yehuda, qui n'étaient pas en accord avec moi sur l'histoire de l'héritage, on est tous d'accord avec Rish Lakish. C'est-à-dire que Kinyan Perot lave que Kinyan Agouf. Et donc, les camarades Rabbi Yirmiya, Baraba et Sakhalatar, Kinyan Perot, Kinyan Agouf d'Amé, qui m'a été un peu, m'a été ben, m'a été un peu, m'a été Donc, Rabbi Yirmiya, Baraba, il défend son avis, il te dit, Sakhalatar, si tu penses que Kinyan Perot, Kinyan Agouf, si Bémet, tu pensais que le pshat, il était que Kinyan Perot, Kinyan Agouf d'Amé, qui m'a été un peu, m'a été si le fils est décédé avant le décès de son père, qui m'a été av, m'a été av, bechaye ha'av, Amaï, il était à pourquoi est-ce que l'acheteur pourrait prendre quoi que ce soit? Qui Kazavin, il a dit des Kazavin. Alors, quand le fils lui a vendu, il a vendu quelque chose qui ne lui appartenait pas, et là, la chemin, il a perdu, Et donc, j'en déduis que Kinyan Perot n'est pas défini comme un titre de propriété, ce qui fait que j'arrive à ma conclusion, qu'à l'avant, le mari a un droit d'utilisation sur les biens de sa femme, Kinyan Perot. Mais c'est pas Kinyan Agouf. Donc, quand la mère a décidé de les donner à son fils, elle a le droit, la propriété, le droit d'utilisation du mari dans les biens de madame, n'empêche pas la madame de donner ses biens à son fils. Donc moi, Rabbi Yirmiya, je défends mon avis en disant que, bien sûr, c'est le fils qui hérite. Pourquoi c'est le fils qui hérite? Puisque la mère lui a donné. Ah, le père, il avait un droit d'utilisation. Bah, c'est exactement la même histoire que Rabbi Yochanan Reish Lakish. Il y a une personne qui a un droit d'utilisation et c'est le propriétaire qui les a donnés. La donation est validée. Donc moi aussi, je pense que quand la mère donne ses biens à son fils, sa donation est validée. Ah, le père, il avait un droit d'utilisation. Et alors, Kinyan Perot, lave que Kinyan Agouf. Tu n'es pas propriétaire. Tu as simplement un droit d'utilisation. Donc, on a dit ça, Rabbi Yirmiya s'est défendu, à Adewa, les Kamed de Rabbi Yehuda. On a ramené la réponse de Rabbi Yirmiya à Rabbi Yehuda, qui avait été possèque de manière différente. Il avait dit que c'était le mari qui héritait, pas le fils. À Marléo, à Kiyama Shmuel. Il leur a dit, Rabbi Yehuda, moi je vous ramène ce que mon Rabbi m'a dit, et Kiyama Shmuel, zo, et no de Malim Shotelou. C'est ce que tu ramènes, cette histoire-là, n'est pas ressemblante à la Mishnah. C'est-à-dire, l'histoire de la Mishnah, Kinyan Perot et Kinyan Agouf, eh bien, cette histoire, elle n'est pas dépendante de la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire, Maïtama? Amar Avesel Bishla Maïtana, Ifra, à côté, on est chassable, la vie du Kalim Shat, Mindé, Kinan, Perot, Lef, Kinan, Agouf, t'as Si Bémet, l'enseignement, et la marque 4, Rabbi Yochanan, et Rishakish, parlait d'un autre cas. J'aurais compris. S'il y avait marqué, à côté, on est chassable, la vie. Un fils qui fait donation de tous ses biens à son père. Et Kalim Shat, Mindé, Kinan, Perot, Lef, Kinan, Agouf. Et dans là, on aurait dit que, quand le fils a fait donation, et le père a donné, alors on te dit, bon, ok, le fils, il a un droit de perot, le père, il a un droit de propriété. Dans ce cas-là, on pourrait arriver à la même conclusion, qu'il a une perot, la fille, qu'il a la gouffe. Et là, je t'ai décaté à côté, on est à les benos, michoum, oui, les rochons. Ici, tu sais pourquoi est-ce que il y a ce sujet de discussion, Raoui, les rochons. C'est-à-dire, pourquoi, ben, dans l'absolu, c'est possible que Kinyan Perot et Kinyan Agouf. C'est-à-dire, dans l'absolu, le droit d'utilisation est un titre de propriété. Et dans notre histoire, chez nous, le mari qui a un droit d'utilisation sur le bien de sa femme, c'est un titre de propriété. Mais il y a une différence. Dans le cas où c'est un père qui écrit pour son fils, et son fils, de toutes les façons, va hériter. Pourquoi est-ce qu'il lui écrit? Sûrement, parce qu'il veut renforcer son Kinyan. C'est comme s'il lui disait, c'est vrai que j'ai un droit d'utilisation, mais ce droit d'utilisation sera faible. Et donc, c'est pour cela que le fils qui a vendu, la vente est validée. Donc, tu n'as pas de preuve d'ici que Kinyan Perot lave que Kinyan Agouf. Dans l'absolu, c'est oui, comme un Kinyan Agouf. Dans l'absolu, celui qui garde un droit d'utilisation, il est propriétaire, la vente n'est pas validée. Mais ici, quand c'est un père qui écrit dans son fils, puisque son fils va de toutes les façons hériter et qu'il lui écrit, c'est qu'il renforce la propriété de son fils et c'est pour cela que la vente n'est pas validée. Il lui a dit, Abaye, Amarle Abaye, qui était l'élève de Rabesef, Atoubra, Yaritaba, Baloritbra. J'ai pas compris. Mais l'héritage, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que le fils hérite de son père, ok, ça c'est la nature des choses. Mais ici, Chas v'Shalom, un fils décède du ventre de son père, c'est le père qui hérite. Et là, l'écriture qui a été faite, les avruchim ou les nirsem ibrekate, achanam et l'avruchim ou les nirsem achuate. C'est-à-dire, toi, tu dis que cette écriture, elle a été faite, cette donation, elle a été faite pour renforcer le kinyan que je donne j'allais dire destinataire, mais il y a un autre terme, je sais pas comment on le dit, mais celui qui est censé hériter. Non. En vérité, c'est pas forcément pour ça. C'est pas pour renforcer son kinyan par rapport à moi. C'est simplement pour le distinguer, lui, de ses frères. C'est-à-dire, quand un père écrit pour son fils, il voulait lui donner à lui et pour ses frères. Quand un fils écrit pour son père, il voulait donner à son père et pas à ses enfants. Et donc, on reste avec l'idée que cette donation ne renforce pas je suis pas en train, moi, le donateur, d'affaiblir ma donation, d'affaiblir ma propriété. Et si on voit qu'elle est quand même faible, c'est que Kinyan Perot, parce que Kinyan Agouf. Et là, il y a demandé, je m'appelle Mishum Takana Toucha. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va expliquer les paroles de Shmuel? Il y avait une Takana spéciale. C'est-à-dire, toi, Rabbi Yirmiya, tu ramènes une preuve qui est parfaite. Dans l'absolu, le Ikar Adin, tu as raison. Kinyan Perot, lave que Kinyan Agouf. le vendeur, le fils qui a reçu un droit de propriété, le père qui conserve un droit d'utilisation, ce kinyan-là ne peut pas empêcher la vente. Et donc, tu as raison aussi que quand madame a donné tous ses biens à son fils, kinyan perot, lavke kinyan agouf, le mari qui a un droit d'utilisation dans ses biens, n'a pas de kinyan agouf. Et donc, dans l'absolu, c'est le fils qui hérite. Mais il y a une takana toucha. Il y a une takana qui a été faite quand le Sanhedrin était en déplacement et qu'il était à Ousha. Là-bas, ils avaient décidé que Isha Shemacha ben Nirsé Milouk Bechaye Baala, c'est une femme qui vend de Nirsé Milouk du vivant de son mari au Meta, elle est morte, Baal Motimian El Kouchot, c'est lui qui hérite. Donc, dans l'absolu, Kinyan Perot, Lavke Kinyan Agouf, Damé. Et donc, en vérité, le titre de propriété du mari devrait être assez faible, puisque c'est qu'un Kinyan Perot. Mais à Ousha, on a décidé qu'il avait comme un titre de propriétaire. Et donc, quand madame a décidé de donner tous ses biens à son fils, elle ne peut pas le faire, c'est le mari qui hérite. Moi aussi, j'ai une preuve de ce que tu dis. Deux témoins qui viennent dire, madame a divorcé, elle a reçu sa ketouba. Comment ça vous dit, elle a divorcé? On voit qu'ils sont encore à la maison, qu'elle est encore au service de son mari. Venim tseou zomemin. Il s'avère que ces témoins sont des menteurs. Ils ont été zomemin. En omri, michalmo kol ketubata. Dans l'absolu, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire perdre? Toute la ketouba. On ment. On ne dit pas que, ils vont lui payer toute la ketouba. Et la tovatana, et tovatana, ketubata. Seulement, tovatana, c'est une petite valeur. C'est quoi tovatana? Omdin, on évalue. Kamal a monté tel ketubata chez nous. Combien un homme est prêt à investir pour acheter cette ketubata? En vérité, c'est un chèque, mais c'est plus un ticket de loto. Et mitarmela, onidgarcha, si elle perd son mari ou qu'elle divorce, l'acheteur a gagné au loto. Par contre, immeta, si elle meurt, ira chez Nabala. Si elle meurt, c'est le mari qui hérite. Donc, t'as 2 chances sur 3 de recevoir quelque chose et 1 chance de rien recevoir. Et donc, tu achètes quelque chose, il y a un potentiel de gagner. Maintenant, les témoins, quand ils ont dit qu'elle était divorcée et qu'elle a reçu sa ketouba, qu'est-ce qu'ils lui ont fait perdre? Cette possibilité-là. Elle aurait pu vendre aujourd'hui et encaisser aujourd'hui. Sa ketouba, elle est de 1 million. Aujourd'hui, elle aurait pu toucher 100 000, payer 100 000. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Si jamais elle meurt, c'est son mari qui hérite. Oui, c'est la takana toucha. Et si tu penses que la takana toucha n'existe pas, c'est-à-dire que le mari n'est pas censé hériter et que la femme pourrait les vendre, eh bien, le malagma, Maïrachenabala, pourquoi est-ce que tu es si persuadé que toi, que son mari va hériter? Arrête, elle pourrait tout à fait, Maïrachenabala, tasbin ktuba, talegamre. Elle pourrait vendre tous ses mechassim, tous les biens qui sont marqués dans la ktuba, et les encaisser. Forcément, elle ne peut pas, grâce à la takana toucha qui a dit que si elle a vendu quelque chose, c'est le mari qui récupère après son décès. Amarabaye, non, c'est pas une preuve, ça. Imamro, benirse, milog, imamro, benirse, tson, marzel. Il y a une différence. Dans nirse, milog, c'est la propriété de la femme. Et donc, sachant que c'est la propriété de la femme, elle aurait pu les vendre avant la takana toucha. Mais, avant la takana toucha, nirse, tson, marzel. Nirse, tson, marzel, c'est un bien le mari, il est responsable ça s'appelle barzel parce que le mari, il est responsable de la valeur des biens. Si jamais la valeur a baissé, il est obligé de payer à madame. Donc, en réalité, c'est comme c'est bien, mais lui, il lui garantit quelque chose. Et là, sur Nirset San Marzel, j'ai pas besoin d'une takana. Nirset San Marzel, c'est je te les donne, toi, mari, mais t'en es responsable. C'est-à-dire, tu dois faire attention. Nirset Milouk, je te les donne pas. T'es pas responsable. Tu peux utiliser. Donc, nous dit la Gemara, la takana toucha, avant la takana toucha, il y avait une différence entre Milouk et Marzel. Quand c'était des biens qui avaient été définis comme Milouk au moment de la Ktouba, eh bien, évidemment qu'elle pouvait les vendre. Mais quand c'était des biens qui avaient été définis comme barzel au moment de la ketouba, elle ne pouvait pas les vendre. Et donc, quand tu dis que elle aurait pu tout vendre, c'est faux. Elle n'aurait pas pu tout vendre. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'évaluation de cette manière. En deux mots, il n'est pas marqué dans cette braïta qu'il était impossible, qu'on a protégé le mari par la takana toucha. Là-bas, la protection du mari, c'est parce que c'est Etson Barzel. Takana toucha a créé cette protection, ce type de propriété du mari, même sur les Mirsé Milouk, donc tu n'as pas de preuve de la Mishnah de cette Takana Toucha. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas de bochette pour un Eved parce qu'il n'est pas Ar. Rabbanan pense que oui, il est défini comme Ar parce qu'il arrive de Mitzot. On a dit que de tout quoi qu'il en soit, un guerre ou un esclave ne peuvent pas être roi parce qu'il est marqué Mikere Bachicha, même si on considère l'esclave comme ton frère ou le converti comme ton frère, mais Mikere Bachicha. Pourquoi est-ce qu'un esclave est pas sous la Edout? Première explication, parce qu'il est marqué, parce qu'il y en a un calvachomer de Gazlam et d'une femme ou d'un enfant. Deuxième chose, parce qu'il est marqué lo yumtu avot albanim, on exclut d'ici celui qui n'a pas d'ascendance. Et de là, on exclut aussi on exclut seulement l'esclave, mais le converti, lui, il est caché à la Edout. On a une histoire d'une maman qui a donné tous ses biens à son fils, et après elle est décédée, son mari voulait récupérer les biens. Dans l'absolu, il avait raison, puisque le kinyan perot du mari n'est pas défini comme le kinyan à gouf de la chose, ce qui fait que la mère, elle pouvait les donner à qui elle voulait, mais puisqu'il y a une takana toucha qui a dit que c'est le mari qui hérite, eh bien, le fils a tout perdu, même s'il lui a donné, ça ne vaut rien. On a une marque entre Abuchalan et Ashlakish, quand un père fait donation de ses biens à ses enfants, à son fils, et que le fils est mort avant son père, et que le fils a vendu avant de mourir, bien sûr, est-ce que l'acheteur pourra récupérer quelque chose au décès du père ou pas? D'après Abuchalan, non, d'après Ashlakish, oui, d'après Abuchalan, non, parce qu'il n'a une perroté, qu'il n'a la bouffe. Le droit d'utilisation du père empêche le fils de vendre quoi que ce soit. D'après Ashlakish, le droit du fils, le droit du père d'utilisation sur les biens n'empêche pas le fils n'annule pas le titre de propriété du fils. C'est pour cela que sa vente est validée. Et même s'il est mort avant son père, la vente est validée. Le défi, comme on fait, vous ne devez pas le faire, Hazara, pour ne pas oublier. Et à demain, Bezrat Hashem, Béli Nader.